Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 17e épisode.
Hier, nous avons parlé des paysannes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du travail domestique. Ce travail domestique, il est fondamental dans la vie des sociétés, dont il assure le fonctionnement et la reproduction. Et le travail domestique est fondamental dans la vie des femmes. Il pèse sur leurs épaules. Elles en sont responsables. Elles s'en sentent responsables. Le travail domestique pèse sur leur identité. La bonne ménagère, la maîtresse de maison accomplie. Voilà le modèle rêvé, l'idéal de la bonne éducation, le désir des hommes. Quelquefois aussi, pas toujours, l'obsession des femmes, en tout cas l'obsession des femmes du passé. La mauvaise ménagère a très mauvaise réputation, celle qui laisse de la poussière ou qui ne sait pas faire la cuisine, véritablement c'est la mauvaise femme. Et on pourrait dire que le domestique marque tout le travail féminin. La femme est toujours un petit peu une maîtresse de maison, de la parfaite secrétaire. On attend qu'elle soit aussi une maîtresse de maison, qu'elle mette des fleurs dans le bureau, qu'elle prenne soin de son patron. C'était ainsi, du moins, dans l'ancien travail de bureau. Josiane Pinto nous a raconté l'histoire des secrétaires de direction. Avec l'informatique, les choses ont changé, le travail de bureau a changé. Mais il reste parfois quelque chose de cela dans le travail de la secrétaire. Le travail domestique résiste aux évolutions égalitaires. Entre hommes et femmes, ils se partagent peu. C'est même la chose qui se partage le moins. Il y a eu en quelques 20 ans, peut-être 2 ou 3% du temps des hommes qui est venu vers le travail domestique. Et puis il y a des travaux qui ne veulent absolument pas exécuter, par exemple le repassage. Jean-Claude Kaufmann nous a raconté l'histoire du repassage. Il montre que là, il y a une barrière très difficile à franchir. Les hommes veulent bien laver leur chemise, mais ils ne veulent pas la repasser. Ce travail domestique, plusieurs traits le caractérisent. Il est peu visible, il est fluide, élastique, peu comptable de son temps. On mesure pas le travail domestique. C'est aussi un travail physique qui met le corps en jeu. C'est un travail peu qualifié et peu mécanisé en dépit des changements contemporains. Le chiffon, la pelle, le balai, la serpillière demeurent ses instruments de choix, même aujourd'hui. Au fond, il paraît presque immobile depuis la nuit des temps, j'allais dire, depuis la nuit des cavernes, je ne sais pas trop ce qui se passait dans les cavernes, jusque à l'aube des HLM. Pourtant, en dépit de ce que je viens de dire, malgré tout, il change. Il change dans ses pratiques, il change dans ses agents. Et je voudrais vous présenter 3 figures du travail domestique dans l'histoire, en quelque sorte. La ménagère, la maîtresse de maison, la bonne à laquelle a succédé notre moderne femme de ménage. La ménagère d'abord. C'est au 18e, 19e siècle qu'on prend conscience de l'importance du travail domestique dans la vie des familles et des sociétés. La bonne ménagère, c'est vraiment une expression d'époque, devient alors l'objet de conseils, de traités d'éducation, plus tard, au 19e, d'écoles. Par exemple, dans les grandes usines, on mettait sur pied des écoles ménagères pour les femmes et surtout pour les filles des ouvriers, comme si on voulait leur inculquer de bonnes habitudes dans la gestion du ménage. Les économistes et les moralistes font d'ailleurs de la ménagère des milieux populaires un peu comme le pivot de l'équilibre économique et familial. Et du coup, ils l'observent, cette ménagère. C'est ainsi que le sociologue Frédéric Le Play, il vivait au 19e siècle, et son école, il avait toute une école autour de lui, mène sur la ménagère des enquêtes approfondies sur les familles populaires. Ils sont des véritables sociologues, comme aujourd'hui. Ils s'en vont dans les foyers qu'ils observent pendant un mois. Ils scrutent le budget Et il regarde comment la ménagère gère ce budget, comment elle dépense son argent, et puis comment elle fait les repas, qu'est-ce qu'elle achète et comment elle cuisine les repas. Et tout cela, ça s'appelle les monographies de famille. Ce sont, pour nous, historiens, des documents exceptionnels sur les ménages et les intérieurs populaires, et principalement sur les femmes, dont la vie et les pratiques nous sont ainsi décrites. Par exemple, sous le Second Empire, la femme du charpentier de Paris. Il y avait une monographie sur le charpentier de Paris, et la femme du charpentier de Paris est très soigneusement décrite. Regardons-la, cette femme du charpentier de Paris. Eh bien, elle vit dans un petit logement de 2 pièces, plus un petit cabinet pour la cuisine. Elle s'occupe des travaux du ménage, du linge, des courses, de la préparation des repas. Et son grand souci, c'est d'avoir des aliments au meilleur prix. Par exemple, sur les marchés, elle s'en va à la fin des marchés pour essayer d'avoir des choses qui sont presque soldées. Et puis, elle achète pas de rôti, elle achète des viandes à bouillir pour faire du pot-au-feu. Elle est là, ça lui est bien égal de faire cuire longtemps les aliments. Et naturellement, les bas morceaux coûtent beaucoup moins cher. Elle fabrique et ravaude elle-même les vêtements de la famille. Elle a un mari et elle a 2 enfants qui sont les seuls survivants de 6 enfants qu'elle a mis au monde. Ce qui nous montre au passage combien la mortalité infantile était forte à cette époque-là. Elle est, cette femme du charpentier de Paris, le médecin de la famille. C'est elle qui soigne tout le monde. On va pas chez le médecin, ça coûte trop cher. Alors elle combine un peu des remèdes à son idée, ces fameux remèdes de bonne femme, dont la médecine va progressivement se moquer, mais qui étaient quand même bien utiles. Elle est aussi le ministre des Finances, c'est l'expression qu'on employait, de la famille, parce que c'est elle qui gère le budget. Le mari lui remet chaque mois sa paye. C'était une pratique très fréquente en France, sans doute d'ailleurs le résultat de la pression des femmes. Les femmes exerçaient une forte pression pour que les maris remettent leur paye parce que c'est elle qui devait la gérer, et on observe que en Angleterre, pas du tout. Les maris anglais, les ouvriers anglais répugnaient énormément à remettre comme ça leur paye à leur femme. D'ailleurs, ça se passait pas toujours très bien, parce que la femme devait rétrocéder une petite somme d'argent au mari pour qu'il puisse aller au bistrot, ne serait-ce que déjeuner à midi, et évidemment, elle mesurait chichement cette partie. Si bien que le jour de la paye est dans les faubourgs populaires un jour de contestation. Il y a les bons maris qui remettent intégralement leur paye, et puis il y a ceux qui essaient de en mettre un petit peu de côté, et alors les femmes rouspètent, elles crient. La femme du charpentier, eh bien, elle essaie de gagner aussi elle-même un petit peu d'argent. Alors comment fait-elle? Elle fait des courses. En lavant son linge, elle lave le linge d'une voisine. Elle raccommode des vêtements pour d'autres. Et elle tient énormément à cet appoint. Et c'était le cas de la plupart des ménagères. Et quelquefois même, elle le met à part. Elle le met dans une enveloppe à part, de façon à pouvoir, peut-être au besoin, faire un achat supplémentaire, faire une petite fête. Il y a là quelque chose de très particulier dans l'usage de ce salaire d'appoint. 20 ans plus tard, car la femme du charpentier, c'est à peu près dans les années 1860, 20 ans plus tard, vers 1880, elle aurait certainement loué ou acheté une machine à coudre, une Singer. La machine américaine Singer était la plus répandue. Pourquoi faire? Pour travailler à domicile, dans l'industrie de la confection. Cette industrie de la confection se répand beaucoup dans la plupart des pays européens, en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et ça consiste à remettre à des femmes à domicile des morceaux de chemises ou de vêtements qu'elles piquent avec leur machine et qu'une fois par semaine, elles rapportent. C'était très mal payé. Les Anglais appellent ça le « sweating system », c'est-à-dire le système des sueurs. On voit bien ce que ça veut dire. C'était épuisant pour les femmes, et à partir de 1900, les féministes et les réformateurs, les médecins, par exemple, vont combattre parce qu'ils estimaient que c'était un peu la clé de la tuberculose qui gagnait ces milieux féminins. Donc, on le voit, la ménagère est très occupée. Et on comprend bien que les ménages ouvriers la préfèrent au foyer plutôt qu'à l'usine. Elle rendait beaucoup plus de services au foyer. Même pour la CGT qui a été créée à la fin du 19e siècle, c'est l'idéal à défendre. La CGT n'est pas tellement favorable au travail usinier des femmes. Alors évidemment, si la ménagère cesse d'être une bonne ménagère, le couple, le foyer vont à volo. C'est la triste histoire que Zola raconte dans L'Assommoir à propos de Gervaise. Peut-être vous avez vu le film qui en a été tiré. Mais on voit cette jeune femme qui essaie de reconstruire sa vie dans un second mariage. Au début, c'est merveilleux, c'est le bonheur et son intérieur est superbement entretenu. Et puis progressivement, pour des quantités de raisons, le mari a un accident, il commence à boire, et tout se dégrade. Et elle ne tient plus du tout son ménage comme il faut, ça devient sale, mal entretenu, et à la fin, ça finira tragiquement. Elle va mourir dans une espèce de soupente, toute seule, comme un peu un chien abandonné. Évidemment, vision tragique, qui n'était quand même pas la vision majoritaire. Voilà pour la ménagère. Et j'y ai insisté parce que cette ménagère est une femme qu'on pourrait dire majoritaire. C'est la condition de la plus grande partie des femmes dans les ménages populaires, et majeure parce que elle a un rôle tout à fait considérable. Deuxième personnage, la maîtresse de maison bourgeoise. Celle, par exemple, que Anne-Martin Fugier a décrit dans un livre qui s'appelle « La bourgeoise, femme au temps de Paul Bourget ». La maîtresse de maison n'a évidemment pas le même type de soucis, du moins si elle a de l'argent. Parce que elle dépend, cette maîtresse de maison, de la somme que lui alloue son mari. Alors il y a des maris plus ou moins généreux, des maris qui gagnent évidemment plus ou moins bien leur vie, ou qui sont plus ou moins avares aussi. Et c'est une source très fréquente de contestation dans un couple que la somme que le mari alloue à sa femme. Zola, qui décidément est un peintre de la vie familiale, a montré ça dans Paubouille. Paubouille qui montre la vie de toutes sortes de couples bourgeois, plus ou moins grands, autour d'un escalier d'un immeuble haussmannien. La maîtresse de maison bourgeoise a la responsabilité de sa maisonnée, c'est-à-dire de la tenue de la maison ou de l'appartement, du linge, de l'ordonnancement des repas. Elle s'occupe des soins et de la première éducation des enfants, ça compte beaucoup. Elle organise les soirées familiales et les réceptions mondaines. Une bourgeoise, même moyenne, même une petite bourgeoise, a son salon et son jour. Le jour où elle reçoit, on sait qu'on peut venir chez elle. Jour fastueux, dans les milieux aisés, ou vraiment chiche, selon les moyens, tout ça. Pour une mère de famille qui a des filles à marier, c'est un souci obsédant que le jour, parce que c'est là qu'elle va présenter ses filles pour essayer d'obtenir un bon parti. La maîtresse de maison règne, en principe, sur ses enfants, les filles surtout, et sur les domestiques. Cette domesticité est son plus grand souci. La domesticité était encore nombreuse dans l'aristocratie et la bourgeoisie aisée. Voyez son importance dans La recherche du temps perdu de Proust. Mais elle tend à se réduire dans la moyenne et petite bourgeoisie à l'unique bonne à tout faire, à laquelle d'ailleurs ses familles s'accrochent comme à une bouée de sauvetage. Être servi, comme on disait, c'est l'ultime marque d'un rang. Ne plus pouvoir se faire servir, quelle horreur, c'est déchoir. Certaines femmes, réduites au cercle étroit de leur maison, développent une véritable mystique féminine du travail ménager et de la reproduction. Leurs enfants, la tenue de leur ménage, voilà leur justification, leur ouvrage, tricot ou broderie, les mille riens du quotidien, comme on disait alors, sont leur passe-temps. Un certain nombre s'occupent d'œuvres, ont leurs pauvres, exercent charité et philanthropie. Elles exercent aussi leur pouvoir sur leur intérieur et quelquefois de manière despotique. Les romans de Mauriac, de François Mauriac par exemple, offrent bien des portraits de mères abusives. Certaines s'épanouissent en des intérieurs chaleureux, tels que ceux que décrit souvent Jane Austen dans les fameux romans anglais de la première moitié du XIXe siècle. Car le quotidien est un interminable roman. D'autres sont plus mélancoliques. Il y a des dépressions des femmes d'intérieur. Certaines ressemblent à la Mrs. Dalloway de la promenade au phare de Virginia Woolf, dans l'attente perpétuelle de l'événement qui ne vient pas. L'état de maîtresse de maison est une variété de l'état de femme. Et j'arrive à ma troisième figure, les domestiques. Une part importante du travail ménager est en effet rémunérée. À la veille de la guerre de 1914, c'est même encore le principal secteur d'emploi des femmes. Les domestiques ne sont d'ailleurs pas des salariés comme les autres. Elles sont nourries, logées, elles reçoivent des gages qui leur sont quelquefois versés irrégulièrement et ces gages sont sujets à retenue. Par exemple, si elles cassent de la vaisselle ou abîment du linge, on va le retenir sur leur gage. Leur temps de travail est quasi illimité. Le dimanche n'est pas garanti, même si la pratique tout de même s'en développe. Au-delà même de leur temps et de leur force de travail, c'est leur personne et leur corps qui sont réquisitionnés dans une relation personnelle qui dépasse l'engagement salarial. Il y a évidemment bien des variétés de domestiques. Cuisinières, femmes de chambre, lingères, filles de cuisine, bonnes à tout faire, n'ont pas le même statut, ni les mêmes gages. Les premières s'en sortent bien, les dernières beaucoup moins. Placées par leurs parents, elles sont jeunes, arrivent de la campagne, elles sont surexploitées, elles sont nourries de reste et logées dans des chambres, les fameux sixième étage des immeubles parisiens qui sont très mal chauffés, qui sont des nids à tuberculose. Inexpérimentées, elles sont souvent des proies dans la maison ou même en dehors, aisément séduites par un beau parleur au bal du samedi soir qui leur laisse, comme on disait alors, un polichinelle dans le tiroir. Entendez, elles sont enceintes. Bien sûr, il y a de bonnes patronnes, il y a de bonnes maisons et de bons souvenirs. Il y a même des jeunes filles qui économisent en arrivant à se constituer des dots qui vont faire d'elles des parties recherchées par des ouvriers. Mais ce n'est pas la condition la plus commune. Et avec le risque de prostitution, la diffusion de la syphilis, ce mal parisien, les provinces sont de plus en plus réticentes à envoyer leurs filles en ville, surtout à Paris. Après 1914, les bonnes se feront de plus en plus rares. « On ne peut plus se faire servir » est une plainte généralisée. Les bonnes vont disparaître au profit des femmes de ménage, souvent d'ailleurs aujourd'hui recrutées parmi les immigrés. Non sans avoir marqué la littérature. La Félicie de Flaubert dans Un cœur simple est la figure la plus émouvante. Bécassine dans La semaine de Suzette de 1906, la plus méchante. Les bonnes de Genet les plus terribles, mise en scène d'un tragique fait divers, les sœurs Papin ont assassiné leur patronne, elles lui ont arraché les yeux. Acte de folie meurtrière, jamais complètement élucidé, symbole peut-être d'une condition domestique devenue insupportable. Alors nous quittons les domestiques et demain nous suivrons les femmes ouvrières.
Mon histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.